VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Salut à toutes et à tous. À ce micro, je suis Mouhamadou Koumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 16 décembre 2022. Il est 17h30, temps universel, pour commencer le sommaire. Le Burkina Faso convoque l'ambassadeur du Ghana pour exprimer sa désapprobation après que le président ghanéen a évoqué un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud s'est réuni pour choisir son prochain leader, le sortant Cyril Ramaphosa en pole position. À écouter l'interview exclusive du président de la transition du Tchad, il revient sur les manifestations du 20 octobre qui ont coûté la vie à au moins une cinquantaine de Tchadiens.
Ces jeunes ont été instrumentalisés, endoctrinés, drogués et ils ont été payés pour naïf. Et c'est dommage pour un homme politique qui aspire à diriger un jour le Tchad.
Eric Manirakiza nous donnera les dernières nouvelles de la Coupe du Monde de football. C'est dans quelques instants dans la page spéciale Qatar 2022. Salut Eric, la France et l'Argentine s'affrontent pour le titre de champion du monde dimanche à Doha. Une troisième étoile pour un jeu. Avant le sommet dimanche, la petite finale mettra aux prises demain samedi la Croatie et le Maroc.
Tout à fait, enfin, l'odyssée marocaine n'est pas tout à fait terminée. Les Lions de l'Atlas ont l'opportunité de monter sur le podium en cas de victoire. Je suis en ligne avec notre consultant sportif Amine Birouk. Il est à Doha au Qatar. Amine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Les deux adversaires sont désormais dans la lutte pour la médaille de bronze. Dans quel esprit le Maroc entend aborder son dernier match de ce mondial ?
Finir la tête haute la compétition et surtout lorgner sur la troisième place du podium qui va permettre au Maroc de rentrer dans le palmarès de la Coupe du Monde en tant que nation africaine, la première en l'occurrence dans ce type de compétition. Il est vrai que la nuit qui a suivi le match contre la France et la journée du lendemain ont été un peu dures. Il fallait digérer, panser les blessures et surtout remobiliser les troupes. Ce qui est certain, c'est que le capitaine Romain Saïss est déjà out et donc manquera cette conclusion. Et on verra dans quelle mesure Walid Regragui va essayer d'apporter du sang neuf avec des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu, histoire de remobiliser l'équipe et surtout de finir sur une bonne note la compétition, Eric.
Merci Amine pour toutes ces précisions. Comme vous le disiez, les Lions de l'Atlas sont les premiers à avoir mené une sélection africaine dans le dernier carré. Il reste à savoir si leurs corps usés par leur splendide campagne répondront encore présents pour pouvoir monter sur le podium. On vous souhaite bonne chance, Mouhamadou. La Coupe du Monde s'achemine vers son dénouement dimanche avec une super finale. Le champion d'Amérique du Sud sur une forme clairement ascendante, passé tout près de l'élimination en phase de poule après sa défaite initiale contre l'Arabie Saoudite. L'Argentine est montée en puissance jusqu'à écarter avec autorité la Croatie en demi-finale. L'Arabie Céleste peut compter sur Lionel Messi en pleine forme et buteur autant que passeur pour son nouveau compère de l'attaque, le jeune Julian Alvarez. Les supporters sud-américains seront sans aucun doute encore dominants en tribune. Ils sont impatients de gagner cette finale. Suivez.
Je pense que tout le monde ressent la même chose. Nous sommes très euphoriques, nous voulons savoir, nous voulons que le dimanche arrive, mais en même temps, nous avons peur qu'il arrive. Mais nous sommes impatients de la gagner, évidemment, nous attendons tous la même chose.
Ce sera difficile, ce sera très difficile. Non, ce ne sera pas facile. En fait, nous avions des attentes pour le premier match et la vérité est que cela ne s'est pas très bien passé pour nous. C'est pourquoi l'anxiété de gagner a baissé un peu, beaucoup, et maintenant ça va être différent.
Je crois que l'Amérique latine va être heureuse. Je pense que l'Amérique latine sera également heureuse et nous soutiendra. Et d'autres pays aussi. Désolée pour l'Europe, mais je pense que l'Afrique, les gens d'Asie aussi, qui ont aussi eu une bonne participation à la Coupe du Monde, je pense qu'ils soutiendront l'Argentine. Je suis très enthousiaste. Eh bien, en fait, j'ai visualisé, une image m'est venue à l'esprit, que je ne sais pas si je dois la dire, mais c'est celle de Messi embrassant quelque chose de très important. Donc, je ne le vois pas pleurer. Donc, je suis heureuse, heureuse que cela puisse arriver. Je pense que cela va passer et que cela va être très bon pour le pays.
Je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui que d'autres fois de gagner la Coupe du Monde parce que cela va beaucoup distraire et les gens vont être heureux maintenant pour la fin de l'année si tout va bien et si tout ne va pas bien. Et aussi, si nous ne sortons pas champions, ils ont tout donné et nous sommes très reconnaissants. En tout cas, moi je le suis.
Cette finale laissera une trace dans l'histoire d'un tournoi qui n'a pour l'instant pas accouché de classique. Un de ces matchs qui reste dans les mémoires des vaincus, des vainqueurs et des autres. La Coupe du Monde a sacré d'immenses légendes du football avant de connaître sa 22e édition, le Mondial 2022 au Qatar. Quelle grande star marquera de son génie l'histoire de cette Coupe du Monde, Lionel Messi ou Kylian Mbappé? Son 64e et dernier match au Qatar peut d'abord écrire un peu plus la légende de Lionel Messi en offrant au petit génie argentin le seul titre qui lui manque, mais aussi le plus grand, celui que Diego Maradona a porté en 1986 à l'Argentine, pays dingue de foot qui avait été sacré une première fois en 1978. Mais la France aussi a une légende à écrire, comme Achille au pied léger d'Homère, Kylian Mbappé rêve de vivre une épopée à remporter à 23 ans une deuxième Coupe du Monde comme Pelé.
Merci. Merci Eric, nous attendons impatiemment de voir qui de l'Argentine ou de la France remportera le trophée. Le Burkina Faso a convoqué ce vendredi l'ambassadeur du Ghana pour exprimer sa désapprobation après les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a affirmé à Washington que Ouagadougou avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Nani Talani.
Lors d'une entrevue aux États-Unis mercredi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé que le Burkina avait conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner. Le ministre burkinabé délégué chargé de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, a donc convoqué l'ambassadeur du Ghana, Boniface Gambila Adagbila, pour traduire la désapprobation du Faso envers ces déclarations du chef de l'État du Ghana jugées graves et inexactes, indique un communiqué du ministère burkinabé des Affaires étrangères. M. Agdabila a assuré que les propos de son président ne visaient pas à condamner le Burkina ni à semer le doute dans les esprits. L'intention était surtout d'attirer l'attention des partenaires afin de susciter un grand intérêt à l'endroit du Faso. En réponse, le ministre Traoré a estimé que le Ghana aurait pu entreprendre des échanges avec les autorités burkinabées sur la question sécuritaire afin d'avoir les bonnes informations. Des sources gouvernementales des deux pays précisent que l'ambassadeur burkinabé en poste à Accra a également été rappelé pour consultation.
En RDC, des affrontements ont repris ce vendredi après une dizaine de jours de calme relatif entre des groupes armés et les rebelles du M23 dans l'Est, a-t-on appris de sources locales, civiles et sécuritaires. Ces combats sont signalés vers Bouiza, dans le territoire de Rutshuru, à quelques 40 km au nord de la capitale provinciale du Nord Kivu. Au Burkina Faso, un soldat et 39 terroristes ont été tués lors d'une opération anti-djihadiste menée entre le 1er et le 10 décembre dans le nord-ouest, a annoncé ce vendredi l'armée burkinabé. Les actions offensives terrestres combinées aux frappes de l'aviation et de l'artillerie ont permis d'obtenir des résultats tactiques importants. Des bases terroristes ont été détruites dans plusieurs localités selon un communiqué de l'état-major des armées. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé jeudi le Rwanda à user de son influence sur le mouvement rebelle M23. Il dit soutenir pleinement l'accord de Luanda en vue de trouver une issue au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Michel Joseph.
Le secrétaire d'État américain a estimé que l'accord conclu sous la médiation de l'Angola offre une opportunité formidable pour mettre fin au conflit et apporte une stabilité durable à l'est de la RDC. M. Blinken s'est exprimé à l'issue d'un sommet des dirigeants africains à Washington après son entretien avec le président congolais Félix Tshisekedi. Celui-ci a dénoncé une agression déguisée via le Rwanda contre son pays. De son côté, le président rwandais a pris ses distances, disant que le problème n'a pas été créé par le Rwanda et n'est pas le problème du Rwanda. C'est le problème du Congo. M. Blinken n'a pas eu d'entretien avec le président rwandais Paul Kagame, mais ils se sont parlé au téléphone avant le sommet de Washington. Il a encore souligné que les États-Unis sont pleinement engagés dans une solution, tout en disant appuyer un règlement entre Africains. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain a également appelé toutes les parties à jouer de leur influence sur le FDLR, un mouvement hutu constitué par certains auteurs du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa devrait, sauf surprise, rester à la tête de son parti, l'ANC, qui se réunit à partir de ce vendredi en congrès. Ceci quelques jours après avoir survécu à une procédure de destitution. Abdourahmane Dia.
Quelques 4500 délégués du Congrès national africain au pouvoir, venus des quatre coins du pays, sont appelés à voter lors d'un congrès de 5 jours près de Johannesburg. Plus d'une centaine de journalistes couvrent l'événement très attendu dans le pays. Cyril Ramaphosa, 70 ans, est en bonne voie pour conserver la présidence du parti et décrocher un second mandat si l'ANC remportait les élections générales de 2024. Son seul rival à ce stade, loin derrière, est son ancien ministre de la Santé, Zueli Makize, épinglé dans un scandale de corruption. Le chef d'État élu en 2018 aborde cette échéance cruciale tout juste après avoir échappé à une procédure de destitution qui a semblé resserrer les rangs autour de lui. M. Ramaphosa est accusé d'avoir tenté de dissimuler le vol de liasses de dollars cachées dans un canapé dans l'une de ses propriétés en 2020. L'enquête de police se poursuit, mais le président n'a pas été inculpé à ce stade. L'ANC a besoin de Ramaphosa, il va gagner, avance l'analyste politique Ralph Matega. Même ceux qui le détestent ont besoin qu'il gagne, ajoute-t-il, à propos du parti déchiré par des divisions internes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le milliardaire américain Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter, est menacé de sanctions par l'Union européenne pour avoir suspendu les comptes de plusieurs journalistes américains. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Qualifiant cette décision d'inquiétante, la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a rappelé qu'il y a des lignes rouges menaçant Elon Musk des sanctions. La liberté de la presse ne doit pas être activée et désactivée à convenance, dénonce le ministère allemand des Affaires étrangères dans un tweet. Dans un autre tweet, le ministre français de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a soutenu que la liberté de la presse est au fondement même de la démocratie. Une douzaine de journalistes américains, dont certains de CNN, de Washington Post ou le New York Times, ont été suspendus du réseau social. Certains avaient tweeté à propos de la décision prise mercredi par Twitter de suspendre le compte qui rapportait les trajets du jet privé d'Elon Musk. Le patron de Twitter a indiqué que les comptes impliqués dans du doxing reçoivent une suspension temporaire de 7 jours, précisant que ces règles s'appliquent aux journalistes comme à n'importe qui d'autre. Le terme doxing signifie divulguer publiquement sur Internet des informations personnelles relatives à un individu sans son accord.
L'Ukraine a subi ce vendredi matin de nouvelles frappes de missiles russes qui ont provoqué des coupures d'eau dans la capitale Kiev et de courant à travers le pays. Selon les premiers bilans, au moins 2 personnes sont mortes à la suite d'une frappe qui a touché un immeuble résidentiel à Kryvyi Rih, selon le gouverneur régional. Et une autre a été tuée par des tirs d'artillerie ayant visé une zone résidentielle de Kherson, ville reconquise en novembre par les forces ukrainiennes. Selon les autorités ukrainiennes, environ 40 missiles russes ont visé la capitale, dont 37 ont été abattus par la défense anti-aérienne. Des dizaines de personnes sont descendues dans la rue ce vendredi à Zaïdan, dans le sud-est de l'Iran, selon des images partagées par des groupes de défense des droits de l'homme au début du 4e mois de la vague de manifestations déclenchée par la mort de Mahsa Amini. L'Iran est en proie à des manifestations depuis la mort le 16 septembre de la jeune kurde iranienne de 22 ans après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran, qui lui reprochait d'avoir violé le code vestimentaire de la République islamique pour les femmes. Et puis le propagandiste français de l'organisation État islamique Rachid Qassim, présumé mort en Irak, a de nouveau été condamné par défaut ce vendredi à Paris à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour la décapitation filmée d'un otage prisonnier du groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. À l'invitation du président américain Joe Biden, le président de la transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a pris part au sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu dans la capitale fédérale américaine du 13 au 15 décembre. Son régime est cependant critiqué par des élus américains qui dénoncent le coup d'État qu'il a porté au pouvoir, mais aussi la répression des manifestations du 20 octobre qui a causé la mort d'au moins 50 personnes selon un bilan officiel. Il nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il évoque entre autres les terribles événements du 20 octobre. Nous lui avons tout d'abord demandé le climat qu'il prévaut à N'Djamena.
Le climat est calme et la transition poursuit son chemin. Parmi les 5 transitions qu'il y a en Afrique, je crois que nous sommes les plus en avance et nous sommes les plus exemplaires et nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons.
Vous dites que la situation est calme, mais il y a quand même eu de nombreuses condamnations, certains opposants comme Succès Masra ont quitté le pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, Monsieur le Président, que l'opposition et la presse privée sont toujours libres de mener leurs activités?
Écoutez, pendant 18 mois, nous avons tendu la main à tous les partis politiques. Pendant ces 18 mois, nous avons amnesti, nous avons pardonné, nous avons tendu la main pour dialogue. Beaucoup de Tchadiens ont accepté. La majorité ont accepté. Le parti dont vous faites référence, c'est un parti qui a été créé pendant la transition. Je l'ai rencontré plus de 8 fois pour le convaincre d'adhérer à ce processus pour la paix au Tchad. Mais j'ai vu en lui une personne qui est très pressée, qui est pressée d'être au pouvoir. Il se prend pour le centre du monde. Que sans lui, c'est le chaos. Et donc, avec ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel est que la majorité des Tchadiens sont d'accord, ont accepté ces processus.
Oui, mais est-ce que vous êtes toujours disposé à poursuivre le dialogue avec, y compris ceux qui n'ont pas pris part au dialogue national inclusif et souverain?
Mais bien sûr, c'est mon rôle en tant que président. Mon rôle à moi, c'est d'arriver à un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible et avec tous les acteurs.
Vous tendez donc la main à l'opposition, à tout le monde. Est-ce que vous avez un message pour tous ces jeunes qui sont sortis le 20 octobre pour manifester? Certains ont été condamnés, d'autres ont été relaxés. Ils se posent certainement des questions sur leur avenir et l'avenir du pays. Est-ce que vous avez un message pour tous ces gens-là?
D'abord, il faut corriger une chose. Ce qui s'est passé le 20 octobre, c'est pas une manifestation, c'est un coup d'État. Une manifestation, c'est quoi? Ça commence d'un point A et ça finit à un point B. Une manifestation qui commence à 1h du matin et qui s'attaque à des édifices publics et bien privés, qui s'attaque avec des armes aux forces de l'ordre dans leur caserne, qui s'attaque à des personnalités politiques qui partagent pas leurs idées, n'est pas une manifestation. Et ces jeunes ont été instrumentalisés, endoctrinés, drogués. C'est des jeunes qui n'ont pas de perspective. Et ils ont été payés, monnayés, et ils les ont envoyés en mission. Et c'est dommage pour un homme politique qui aspire à diriger un jour le Tchad. Nous regrettons ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Nous avons aussi demandé une enquête internationale qui va certainement nous dire qui a fait quoi. Mais ce que je voudrais dire à mes frères jeunes Tchadiens, que le temps de la violence est révolu. Il faut dialoguer. C'est un dialogue qu'on peut trouver des solutions.
L'intégralité de cette interview est disponible sur notre site web voaafrique.com.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Des milliers de migrants se trouvent dans la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juárez en attendant la fin du titre 42, une politique de l'ère Trump qui a permis l'expulsion rapide des migrants à la frontière américaine. Les législateurs américains et les responsables des douanes et de la protection des frontières disent qu'ils se préparent à un énorme afflux de migrants si cette politique se termine le 21 décembre comme prévu. Ce reportage est signé de César Contreras depuis Ciudad Juárez. Récit de Nani Talani.
Un grand nombre de migrants continuent d'arriver à la frontière sud des États-Unis. Des milliers d'entre eux se rendent aux autorités américaines des douanes et de la protection des frontières à El Paso, au Texas. Ils disent qu'ils espèrent entamer le processus de demande d'asile politique. Cette foule est arrivée à El Paso quelques jours seulement avant l'expiration, le 21 décembre, du titre 42. Les migrants se rassemblent dans la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juárez, se préparant pour ce jour. La situation devient intenable, se plaint María Eugenia Campos Galván, gouverneure de l'État mexicain de Chihuahua. Lors d'un entretien avec des journalistes au début du mois, Madame Campos a critiqué le gouvernement mexicain pour avoir autorisé la garde nationale à escorter environ 1 500 migrants à bord de bus vers Ciudad Juárez sans fournir les ressources nécessaires pour faire face à cet afflux. Joël Mota, Oscar Ries.
Dieu merci, les autorités mexicaines nous ont aidés. Nous avons atteint notre destination et sommes arrivés sains et saufs. Ils ont pris grand soin de nous.
Ce que nous avons traversé a été difficile, mais Dieu merci, le peuple mexicain nous a ouvert les portes et nous a aidés pour tout, y compris la nourriture.
Après quelques heures dans des refuges à Ciudad Juárez, des centaines de migrants ont décidé de traverser le Rio Grande pour entrer aux États-Unis. Les responsables du refuge les laissent faire. Ana Laura Rodela.
Personne ne sera obligé de rester ici. C'est une décision éclairée. Une fois qu'ils sont arrivés, nourris et reposés, nous allons leur dire les règlements et parler des services que le gouvernement mexicain leur offre. Chaque famille décidera ensuite quoi faire.
Des milliers de migrants se sont rendus aux gardes-frontières sur les rives du Rio Grande entre Ciudad Juárez et El Paso. Orlando Marrero Rubio, porte-parole de la patrouille frontalière du secteur d'El Paso, fait état d'environ 2100 dossiers traités quotidiennement.
Grosse polémique après la suspension jeudi des comptes Twitter de plusieurs journalistes couvrant le réseau social Twitter et son patron Elon Musk. Parmi eux figurent des employés des médias comme CNN, le New York Times ou le Washington Post. La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a jugé inquiétante cette décision de Twitter. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Dakar Basile Nian, journaliste blogueur et spécialiste du digital. Il s'inquiète des conséquences de ce débat sur la liberté d'expression en Afrique.
Il avait dit, il l'a fait. Je pense que pour moi personnellement, Elon Musk est en train de montrer à la face du monde qu'il est puissant, qu'il fait ce qu'il veut parce que Twitter lui appartient.
Elon Musk avait quand même promis, après avoir acheté Twitter, que cette plateforme serait un espace de liberté et qu'il allait même lever la suspension de plusieurs comptes, dont celui de l'ancien président américain, Donald Trump.
Oui, il a fait le sondage sur Twitter, tout le monde l'a suivi. Il demande, vous répondez, s'il a plus de 50% de personnes qui pensent que Donald Trump doit revenir sur Twitter, il le fait. Mais bon, la question, c'est par rapport à la confidentialité en tant que telle. J'ai l'impression que c'est une affaire privé qui est sorti au niveau du réseau social, parce que même des fonctionnalités que Twitter va mettre en rallongeant un peu le nombre de caractères pour Twitter allant jusqu'à 3000, tout cela ce sont des informations qui ont été en quelque sorte publiées par une certaine presse. C'est comme si c'était deux presses différentes. Une presse qui est derrière Elon Musk pour détruire le milliardaire, parce qu'il a un peu chamboulé en quelque sorte tout ce qui se passe sur son réseau social, et un autre qui est là pour lutter pour la démocratie au niveau de la plateforme.
Et pour l'Afrique, est-ce que cela ne peut pas servir de prétexte hein, aussi pour les gouvernements africains pour qu'ils muselent leurs critiques ou restreindre même les réseaux sociaux?
Oui, on peut s'attendre à tout. Hein. Je ne dirais pas non, sachant qu'aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya, ou l'Ouganda également, où on avait même la possibilité de restreindre, de demander à Twitter de payer des impôts ou bien de poursuivre des gens qui, à travers d'un seul tweet, et sont attaqués ou bien sont poursuivis et même ont été condamnés en prison. Donc, en quelque sorte, cette démocratie, cette liberté d'expression qu'on voyait au niveau de Twitter, qui est un réseau, je le dis encore, spécial par rapport aux autres, commence à se dégrader. Et déjà au Sénégal, les gens sont en train de parler d'une loi pour en quelque sorte réguler les réseaux sociaux. Je crois qu'avec cette situation qui est en train de se développer au niveau du réseau social et dans d'autres réseaux également, ça pourrait pousser vraiment les gouvernements africains à en quelque sorte couper, je le mets en parenthèse, cette relation qui donne beaucoup plus de liberté, que ce soit aux journalistes, que ce soit aux journalistes citoyens. Et le débat est là. Hein.
C'était Basile Nyan, directeur de socialnetlink.org, journaliste blogueur et spécialiste du digital. Pour terminer, nous vous proposons un entretien musical avec la chanteuse congolaise Deti Darba, qui interprète ses chansons en plusieurs langues, dont le Lingala et le Swahili. Nathalie Barge la jointe à Goma, dans le Nord Kivu.
J'ai fait un concert dans une ville qui s'appelle Butembo. Et avant mon concert, j'ai appelé quelqu'un, il était dans l'équipe, et je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin d'apprendre quelques phrases en kinandé. C'est la langue qui prévaut sur toutes les autres là-bas. Quand tu vas quelque part, tu parles la langue de ces personnes-là, tu t'identifies à elles et tu auras déjà touché leur cœur. Ils vont s'approprier. Le pouvoir de la langue, il est vraiment immense. Si vous n'entendez qu'à moi, j'allais apprendre toutes les langues du monde pour pouvoir connecter comme il faut avec le monde entier. Nous avions fait avec Naweza, c'est que nous avions créé une sorte de mini coopérative de ces femmes-là, qui est de l'autoproduction. Elles cotisent un tout petit montant chacune, et c'est une trentaine de femmes, et à chaque fin du mois, on donne ce montant-là à l'une d'entre elles qui va acheter des graines et qui va les planter. Nous avons un champ où chaque femme a son espace où elle peut planter, cultiver du soja, du haricot, des arachides, etc. Alors, après la production, elle peut aller au marché et revendre, et cela peut lui permettre de prendre soin de sa famille. Mais d'un autre côté, quand j'ai parlé des orphelins, en fait, c'est des enfants que nous prenons en charge, surtout pour leur scolarité. Quand nous voyons le sourire sur les visages de ces femmes, le sourire sur les visages de ces enfants, ça nous fait tellement de bien. Depuis un moment, j'ai commencé à travailler avec une organisation qui s'appelle COSCAE, qui faisait des recherches sur le travail des enfants dans les mines. C'est comme ça que j'ai rencontré Free the Slave, qui est une organisation mondiale qui travaille surtout dans l'esclavage moderne, toutes ces personnes à qui on vend du rêve, je veux vous emmener, je ne sais pas où, vous aurez une belle vie, et quand ils arrivent là-bas, ils deviennent des esclaves sexuels, ils deviennent des donneurs d'organes, ils deviennent ça. C'est une opportunité de joindre ces grands mouvements-là et mettre au profit nos aptitudes. Et c'est ce que nous faisons avec Free the Slave. Et nous espérons toucher beaucoup plus des mondes et sauver beaucoup plus des personnes. À un certain moment, je m'étais rendu compte qu'autour de moi, les jeunes filles ne mettaient plus du pagne, en fait. Pourtant, c'est ce qui nous définit, le kikwembe, le kiteng, le yola, d'où d'ailleurs le nom yola, c'est un habit de valeur, en fait, en swahili. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, je crée une habillement qui va mettre en valeur ce pagne. Alors, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter qu'à ça. Il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui ont des talents. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé Yola Academy. Et nous prenons en charge ces jeunes femmes, ces jeunes hommes aussi. Nous apprenons le maquillage et la couture. Ils peuvent après créer leur petite entreprise ou à la fin de la semaine, un week-end, quand ils ont des mariages, etc. Elles vont maquiller, on les paye. Et ça les aide en fait à relever un peu la barre et se prendre en charge effectivement. Et on a de nos apprenantes qui travaillent déjà dans des salons de beauté. Il y en a qui ont créé leurs entreprises. Il y en a qui sont devenus des couturiers. Et en tout cas, nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de devenir.
Et c'est avec cette belle chanson de Deti Darba que nous mettons un terme à cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir. Peace.